Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, il y a une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
La rentrée des associations et leur avenir, on en parle avec le directeur adjoint de l'AGLCA, la maison de la vie associative à Bourg-en-Bresse.
Reportage à la nouvelle outithèque d'Étré, dans le tiers-lieu L'Écrin, un lieu pour emprunter de nombreux outils.
Jean-François Debat, maire de Bourg et président de l'AGLO, et Jean De Guéry, président du département, nous parle des grands dossiers de la rentrée. Et c'est tout de suite dans l'actu en bref.
Bourg. En bref.
Rentrée du maire de Bourg-en-Bresse devant la presse.
La semaine dernière, Jean-François Debat a présenté les grands sujets de la rentrée et parmi eux, l'urbanisme. Il nous parle des différents projets en cours.
Début 2022, le carré Amiot, conservatoire et le bâtiment dit Sirius. Les projets Cardinal à la Madeleine et l'aménagement également des glycines à la Madeleine. Décathlon, projet privé sur un terrain vendu par la ville. Au carrefour de l'Europe, qui ramène du commerce de grande surface en cœur de ville. Il y a aussi les projets qui vont sortir, qui ont été travaillés là depuis 1, 2, 3 ans. Nous allons vendre la MJC, la vieille MJC, la vieille AGLCA et la vieille maison des syndicats pour un projet de tertiaire qui sera rendu public dans les toutes prochaines semaines, à côté de la MCC, à côté de l'amphi, pour redonner vie et une fonction à cette arrière du champ de foire. Et nous présenterons également, ailleurs dans la ville, ce qui est une attente pour de nombreux Burgiens et des nombreux habitants de toute l'agglomération, c'est-à-dire l'aménagement du pont de Lyon, pour, je dirais, réaménager ce quartier sur la durée de ce mandat et lui donner une nouvelle vie et qu'il soit une entrée de ville dont nous soyons fiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà les projets qui vont être lancés là dans les semaines et dans les mois qui viennent.
Et dans les autres sujets abordés, la mise en place de 4 nouvelles caméras de vidéoprotection dans le quartier Croix-Blanche, le plan vélo qui doit être annoncé dans les prochaines semaines, et toujours dans la transition écologique, la pose de panneaux photovoltaïques sur Interexpo et aussi des bus électriques en 2022. Le maire était aussi dimanche 12 septembre à Rouen pour l'annonce de la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Il va prendre part à sa campagne et il explique son soutien à l'actuelle maire de Paris.
Elle est la seule à pouvoir éviter que les Français n'aient un arbitrage entre la droite libérale d'Emmanuel Macron et la droite extrême de Marine Le Pen. Et c'est la seule à pouvoir faire une synthèse entre la gauche et l'écologie et donc représenter une vraie alternative dont nous avons besoin pour les enjeux climatiques, mais aussi les enjeux de justice sociale. Et moi, je suis attaché au fait qu'on mêle les enjeux de transition écologique, de la société et de justice sociale. Si on l'avait fait, on n'aurait pas eu les gilets jaunes. Eh bien, la gauche et Anne Hidalgo est celle qui peut le faire. C'est une personne sincère, engagée, que j'apprécie. Elle m'a demandé de m'engager avec elle. Je l'ai fait très volontiers. Et elle s'appuie sur une équipe de maires. Donc des maires de grandes villes, des maires de villes moyennes comme moi et des maires de plus petites communes. Et c'est dans cet état d'esprit que je m'engage à titre je dirais, personnel dans cette campagne.
Autre rentrée, celle de Jean De Guéry.
Le président du département a fait un bilan de la saison touristique estivale.
Alors, bilan touristique de cet été, d'après les professionnels du tourisme, est plutôt bon. En tout cas, il est meilleur que 2020. Peut-être pas, il n'a encore pas atteint les chiffres de 2019. En tout cas, il est encourageant. Et je sais que ces professionnels du tourisme attendent aussi encore beaucoup de l'arrière-saison, dont nous sommes en plein dedans. On fera vraiment les bilans en fin d'année. C'est mieux, mais ce n'est pas encore ça. Ce qui a mieux marché, ce qui a bien marché apparemment, c'est le locatif, hein, plus que l'hébergement à l'hôtel. C'est surtout les randonnées, partout où il y avait possibilité de faire du vélo aussi. Les coins de baignade ont été malheureusement les plus touchés à cause de la météo qui a été fortement dégradée en plein été. Voilà, mais nous ferons vraiment un bilan complet à la fin de l'année. Et derrière, nous accentuerons nos efforts là où il faut le mettre pour attirer de plus en plus de, de tourisme. Je ne dis pas un tourisme de masse, un tourisme familial, c'est ce que nous recherchons, ce que nous attendons. Et quand on voit la clientèle qui est venue, la clientèle exogène à Lens, ce sont des départements limitrophes comme l'Isère, comme les Savoies, la Saône-et-Loire et le Rhône. Donc il faut aussi répondre à ces attentes-là auprès de ces familles qui favorisent aussi les circuits courts dont on est à côté.
Jean de Guéry a aussi un nouveau rôle à l'échelle nationale. Il est vice-président de l'Assemblée des départements de France, l'ADF. L'un va d'ailleurs accueillir tous les présidents de département. Jean de Guéry nous explique.
C'est une première pour le département. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu un congrès départemental dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons des propositions. Nous sommes en train d'écrire et de réfléchir à des propositions à présenter et à proposer à tous les candidats qui seront en course pour l'élection présidentielle de 2022. Donc forcément que pendant ces assises départementales nationales, eh bien, il y aura des candidats qui vont venir bien évidemment nous écouter, nous entendre, et nous attendrons surtout leurs réponses et leurs engagements. Parce que nous ne voulons pas que ça soit comme par le passé, simplement des promesses qui ne sont pas tenues. Nous attendrons de leur part de vrais engagements, devant la presse aussi, et qu'ils tiennent leurs promesses sur ce que nous allons leur demander. Parce qu'aujourd'hui, les départements sont quand même les rôles pivots, les collectivités de proximité dans l'échelon national. On a besoin des grandes régions, on a besoin des communes, mais entre les deux, il y a aussi les départements qui font parfaitement bien le relais.
Justement, vous êtes vice-président de l'ADF. Qu'est-ce que ce nouveau rôle peut apporter à notre département ?
Je pense que d'être vice-président à l'ADF et porte-parole nationale apporte de la visibilité sur le département, puisqu'on situera encore un peu plus l'un. Ça permettra aussi d'être aux avant-postes des réflexions et des actions à engager, puisque le département, je tiens à ce que le département de l'Ain soit un département pilote dans beaucoup de domaines. Donc ça permettra également de mettre en place les actions que nous déciderons à l'ADF. Et puis je pense que ce n'est pas du tout négligeable ni nuisible pour le département. Bien au contraire, en termes d'image, ça montre que ce qui a été fait dans l'Ain a été reconnu aussi. On ne m'a pas choisi par hasard uniquement pour mes beaux yeux. Hein. Je pense que c'est aussi par les actions qu'on a fait par le passé. Que derrière, je le disais tout à l'heure, à la fois sur la démographie médicale, enfin les cabinets de télémédecine, que ce soit sur la brigade antifraude RSA, que ce soit sur tout un tas d'actions que nous avons menées aussi, sur le plan vélo, sur le plan handicap, sur le plan senior, eh bien ces actions ont été soulignées souvent et remarquées par les départements de France. J'ai souvent été interrogé sur nos actions pour savoir comment ça s'était fait, est-ce que je pouvais donner quelques conseils. Et je pense que c'est tout naturellement que le président Sauvadet m'a choisi pour porter la bonne parole aux médias, à tous les médias nationaux et départementaux et régionaux, et également pour aller porter cette bonne parole également dans les autres départements de France.
Et l'Ain devrait accueillir les différents présidents de département début décembre. Jean de Guéry invite les candidats à l'élection présidentielle à venir les écouter.
Une manifestation pour un plan d'urgence dans l'éducation ce jeudi.
Elle est organisée par les syndicats de la CGT Éducation et du SNUIP FSU. Ils demandent une revalorisation des salaires et plus d'investissements dans les écoles. À Bourg-en-Bresse, le cortège partira de la mairie jeudi à 14h30 et se dirigera devant l'inspection académique.
Une journée de la santé, mardi 28 septembre.
Plusieurs conférences sont organisées pour le grand public. C'est organisé par le département de l'Ain, la CPAM et le journal Le Progrès. Parmi les rendez-vous, une démonstration de la cabine de télémédecine ou encore des conférences sur l'alimentation, le handicap ou la chirurgie. La programmation complète est disponible sur le site journée-de-la-santé-1.fr.
Le nouveau stade de biathlon inauguré.
C'était le premier stade de biathlon en France et il a vu s'entraîner des champions olympiques comme Simon Détieu ou encore Corinne Niogret. Situé au plan d'automne, ce stade rénové va pouvoir accueillir de nouveaux champions et même ceux de l'handisport. Il est maintenant aux normes nationales et internationales. Une rénovation qui a coûté plus d'1 million d'euros, payée par le département, l'État et l'Europe notamment.
L'éveil au métier de l'Ain fait sa rentrée ce mercredi.
L'association portée par la Chambre de métiers d'artisanat de l'Ain propose chaque mercredi des ateliers pour découvrir des métiers de l'artisanat. Cette année, une nouveauté, la couture. Elle rejoint la vannerie, la coiffure ou encore la ferronnerie. C'est ouvert aux jeunes entre 10 et 14 ans sur inscription.
On peut jouer à nouveau à la console à la médiathèque.
La médiathèque Camus rouvre sa Gamebox. Elle était fermée depuis le début de la crise sanitaire. Virginie Villard-Grosjean, responsable de la médiathèque, nous en parle.
Cette Gamebox, c'est une pièce d'environ à peu près 10 mètres carrés où on va trouver 4 consoles pour le moment. Donc une console de rétro gaming, la PS4, la Xbox One et la Switch.
Donc plutôt des jeunes qui viennent ici alors.
En fait, on a des ados, on a des enfants, mais on a aussi des parents ou bien des jeunes adultes qui vont venir jouer à des jeux, on va dire en PEGI 18.
Faut réserver, comment ça se passe pour...
Alors, on n'est pas forcément obligé de réserver. Vous arrivez sur place et vous avez la possibilité de jouer 40 minutes sur place. Donc, soit vous arrivez et vous présentez au bibliothécaire, vous entrez dans la pièce en échange en fait d'une carte ou d'une pièce d'identité. Et puis ensuite, d'autres personnes se présentant également, ayant envie de jouer au même jeu que vous, peuvent vous accompagner, jouer. Vous allez ainsi apprendre à connaître des gens et découvrir un jeu peut-être pour lequel vous n'étiez pas venu jouer.
Et pour jouer dans la Gamebox, c'est à la médiathèque Camus de Bourg-en-Bresse. Elle est accessible à tous. Et pour rappel, la location de livres, DVD ou jeux est devenue gratuite pour les Burgiens depuis cette rentrée.
Une vélorotion à Bourg-en-Bresse.
Ce samedi, l'association La Recyclette invite les habitants à enfourcher leur vélo pour rouler tous ensemble dans les rues. L'objectif, mettre en avant ce moyen de transport écologique et bon pour la santé. Pour rejoindre la vélorution, c'est ce samedi à 14h30 à Bourg-en-Bresse et le départ se fait place de la Comédie.
Ce dimanche, c'est le marché aux bonnes astuces à Bourg.
Le thème, c'est le zéro déchet. Vous pourrez acheter des objets éco-responsables ou suivre des ateliers. L'événement est organisé par les conseils citoyens, l'association du plateau et la ville de Bourg-en-Bresse. C'est la deuxième édition et elle aura lieu sous le marché couvert de Bourg-en-Bresse de 13h à 18h.
L'invité de Radio B.
Loïc Basset-Bouguin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de l'AGLCA, le Centre Ressources pour la vie associative et l'économie sociale et solidaire. Les états généraux de la vie associative se sont déroulés jeudi 16 septembre à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté à Bourg-en-Bresse. Loïc Basset-Bouguin, pourquoi un tel rendez-vous ?
En fait, ils sont encore en cours, c'était simplement une étape. Pourquoi un tel déroulé ? On est en novembre 2020, grosse rentrée des associations, en particulier à Bourg-en-Bresse, et tout s'arrête. Et là, on se dit, il faut qu'on prenne des nouvelles des associations. Donc, janvier 2021, on téléphone à 200 associations pour prendre des nouvelles. Et puis, quatre sujets ressortent, projet associatif, bénévolat, finance et puis communication. Et là, trois séances de travail pour partager les difficultés, les traduire en besoins et puis commencer à travailler des pistes de solutions. Et donc le 16 septembre, c'était un temps d'échange, de discussion entre dirigeants associatifs, mais aussi avec deux expertes de la vie associative, notamment à l'échelle nationale, et puis deux décideurs, deux financeurs locaux.
Est-ce que la volonté de faire ces états généraux de la vie associative, elle a découlé de la crise sanitaire avec la pandémie Covid-19 ? Ou c'était quelque chose qui était déjà dans les cartons ?
La pandémie, elle a plutôt eu un effet loupe sur des problèmes structurels. Ça a plutôt été une occasion. Voilà. On s'est saisi de l'occasion. C'était vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire et de mettre en place, qu'on puisse discuter entre dirigeants associatifs des problèmes structurels, quoi.
Donc des problèmes structurels qui existaient avant la pandémie.
Oui, voilà, on avait déjà ces retours-là avant on a du mal à trouver des bénévoles, des dirigeants, sur les subventions. Voilà, c'est toujours une course à l'innovation. On a besoin de financement structurel pour pouvoir mener notre projet associatif correctement. Il faut toujours s'adapter, mais on n'a pas envie de toujours s'adapter. Et puis sur la communication, comment faire pour que notre projet associatif il puisse être connu du grand public ? Donc ça a vraiment été ça le cœur des discussions.
Et quelles associations ont participé donc aux travaux pour ces états généraux de la vie associative ?
Alors, c'était plutôt ouvert. On a eu plutôt une diversité d'associations puisque on a commencé par cette enquête d'associations plutôt, on va dire, burgiennes. Et puis ensuite, les séances de travail étant en distanciel, il y a eu un peu de tout. Des associations dans la culture, dans l'environnement, des associations avec 100 salariés ou avec 2 ou 3 salariés. C'est, plutôt une diversité. Mais ce travail a vocation, en tout cas, dans la suite, à ce qu'il puisse bénéficier, en tout cas, au plus grand nombre d'associations qui souhaitent se greffer sur cette dynamique.
On peut peut-être rappeler, Loïc Basset-Bouguin, le nombre d'associations dans l'Ain.
Dans l'Ain, c'est 17 000 associations, voilà. Et nous, modestement, on en accompagne à peu près 1 000 par an. Donc y a beaucoup de boulot. Et en tout cas, on est nombreux et nombreuses à être investis dans des associations.
ce jeudi 16 septembre où il y a eu donc cette soirée qui a réuni donc des dirigeants d'associations, vous avez dit des spécialistes du monde associatif. Qu'est-ce qui est ressorti des échanges ?
Je retiendrai trois choses. La première, sur la communication. On a vraiment envie de réussir à travailler, à faire connaître les projets associatifs à destination du grand public. Le deuxième, sur le bénévolat, ce sont des envies et des besoins qui se rejoignent entre dirigeants associatifs, qu'on va dire classiques, et une population qui serait plutôt identifiée comme jeune, mais qui ne se rencontre pas dans le mouvement associatif. Et il faut que les dirigeants associatifs doivent faire ce travail-là d'aller vers les jeunes. Et puis le troisième, c'est sur l'accès au financement. Il faut qu'en particulier, voilà, la GLCA, il faut qu'on arrive à travailler pour qu'on puisse plus aider à informer des subventions qui existent, des dispositifs qui existent, et aider à monter les dossiers.
Loïc Basset-Bouguin, comment vont les associations en cette rentrée 2021 ?
Alors, les associations, elles vont bien. Elles vont bien parce que les gens sont contents de se retrouver. On a fait le tour des forums des associations. Il y a vraiment une énergie, un plaisir de retrouver cette convivialité, de relancer les activités. L'enquête qui a été menée notamment par le mouvement associatif et Recherche et Solidarité sur Covid-19, un an après, où en sont les associations, montre que sur le plan budgétaire, pour deux tiers des associations, c'est acceptable, encore ce qui se passe. Maintenant, elles sont inquiètes sur la mobilisation des bénévoles et puis, ça c'est un constat plutôt personnel, sur la mise en place du pass sanitaire, ça induit des choses chez les dirigeants associatifs où il faut contrôler les bénévoles, les adhérents, là où l'objectif il est d'arriver souvent à mobiliser le plus de personnes possible. On en vient à mettre du contrôle et ça correspond pas à l'esprit associatif. Donc, comme le reste de la société, le milieu associatif est tiraillé et divisé autour du pass sanitaire.
Est-ce qu'il y a des associations qui ne sont pas reparties à la suite de la crise sanitaire que nous vivons ?
Alors, l'enquête nationale de Recherche et Solidarité montrait qu'en avril 2021, 40% des associations n'avaient pas encore repris d'activité. Donc, c'est pas évident, on n'a pas encore de chiffre officiel là, on est encore en plein dans la rentrée. Mais les quelques premiers retours qu'on a, c'est qu'il y aurait à nouveau une perte de 30% d'adhérents sur cette rentrée. Alors, soit des gens qui attendent de voir si on ne va pas nous remettre un nouveau confinement qui va nous empêcher de pouvoir partager nos projets et donc de ne pas reprendre de licence. Et puis des personnes qui attendent aussi la fin du pass sanitaire avant de pouvoir reprendre les activités. Mais ça demanderait à être confirmé.
Concernant la suite de ces états généraux de la vie associative, quelles sont les prochaines étapes ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà les acteurs, les financeurs locaux. On espère qu'ils auront pris un certain nombre de notes et qu'ils vont mettre eux aussi des choses au travail. Voilà, on sait qu'il y a des choses qui se poursuivent.
Oui, parce qu'il y avait le maire de Bourg-en-Bresse et président de l'agglomération du Grand Bourg qui était présent.
Oui, et le président de la caisse d'allocation familiale aussi. Donc voilà, de leur côté, en tout cas, l'objectif, c'est que ça produise des choses. C'est que les dirigeants associatifs qui ont envie de se mettre au travail sur des sujets, ils puissent le faire. Et puis nous, oui, on proposera des choses, nous à GLCA, mais avec des dirigeants associatifs. Il faut qu'on prenne le temps de bien identifier ce qui est prioritaire et puis de construire une proposition. Mais en tout cas, on souhaite poursuivre ce travail, salariés de la GLCA et puis dirigeants associatifs. Et puis l'année qui arrive va être pour la GLCA l'année de l'évaluation de son projet associatif et la construction du nouveau projet associatif pour les 5-6 années à venir. Et donc, c'est aussi beaucoup de matière qui va venir alimenter notre travail.
Loïc Basset-Bouguin, directeur adjoint de l'AGLCA, le centre ressources pour la vie associative et l'économie sociale et solidaire. Vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
Pousse ! En reportage avec Radio B.
Samedi dernier, c'était l'inauguration de l'Outitech au tiers-lieu L'Écrin à Étrée, un lieu où vous allez pouvoir emprunter tout type d'objets pour votre jardin ou votre maison. Nous sommes allés la visiter.
C'est des choses qu'on achète parfois et puis on s'en sert une fois. Et puis après, on n'a plus d'utilité. La ponceuse à bande. Et puis voilà, les serre-joints pour bloquer les objets quand on veut couper.
Jean-Michel Montesino. Je suis un habitant de Brézalon, la nouvelle commune, anciennement pour moi Étrée. Et puis disons que je fais partie d'un groupe qui ont décidé avec l'aide de la mairie de monter un système qui permet à tous les habitants de Brézolon de se servir en outils, en matériel, gratuitement. Pour nous, le but, c'est plutôt de connaître les gens, de les aider. Et le matériel, c'est plutôt l'excuse. Ce serait plutôt d'apprendre à se connaître et à s'aider.
Vous allez nous faire visiter cet outil tech.
Oui.
Par quoi on commence?
Donc le sous-sol de l'écrin, ça fait 250 mètres carrés. Il y a un arc central où il y a un bureau pour recevoir les gens. Après, il y a des tables qui vont permettre aux gens de pouvoir s'installer et discuter. Dans une partie, on aura des établis où les gens qui voudront venir bricoler ici, ils pourront le faire. C'est-à-dire la personne qui veut, je ne sais pas, faire des cadres, par exemple. Il vient avec ses bouts de bois, il nous dit, j'ai envie de faire des cadres, comment je fais? Eh bien, on va lui expliquer si on sait. Et on va lui dire de servir tous les outils qu'il veut. Les outils, on les a. Alors, il y aura un établi plutôt bois, où il y aura du matériel pour le bois. Il y a un établi où il y aura plutôt fer, qui sera avec des clés, des mains, de tout. Bon, je ne sais pas, quelqu'un qui veut réparer un vélo, ben, il vient ici, il porte son vélo, il le répare. Et puis voilà, quoi. Donc, il y a cette partie où les gens peuvent venir travailler à l'écran. Et une autre partie, qui est la partie où on prête le matériel, donc qui est stocké quelque part. Voilà. Et après, on a même fait une petite partie qui est pour les enfants. On a fait un petit endroit où ils peuvent s'amuser avec des petits établis, des marteaux. Voilà.
Une adhésion de 20 euros est demandée par famille et donne accès à tout le tiers-lieu de l'écrin. Pour l'instant, l'outil tech est accessible seulement aux habitants de la commune nouvelle de Brèze-Vallon, qui regroupe Étré et Crassure-et-Souze. Le fonctionnement est simple, vous venez emprunter vos outils le samedi matin ou le mercredi soir. Il faut ensuite les rendre à l'outil tech pendant une des permanences.
On ne veut pas que les outils soient des mois et des mois chez les gens, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils viennent. Il n'y a pas de rendez-vous par téléphone, surtout on n'en veut pas. On veut que les gens qui veulent un outil, ils viennent nous le demander. Ils viennent parler avec nous, ils viennent nous dire pourquoi ils le veulent. Et c'est ça. Parce que je vous dis ça parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a dit « Vous avez un numéro de téléphone où on peut réserver ?» J'ai dit « Non, on n'a pas de téléphone. » On veut que les gens viennent, se déplacent, et c'est le but.
Ils sont une dizaine de bénévoles au total pour l'instant, des retraités et des actifs, des femmes et des hommes. Mais il va falloir plus d'effectifs pour faire tourner l'outil tech sur le long terme.
Pour le moment, on a un problème de bénévolat parce que, comme il y a des permanences, donc on a dit le mercredi et le samedi, à chaque fois, il nous faut au minimum de 2 personnes et on s'aperçoit que c'est lourd. Hein. C'est lourd. Pour le moment, pour nous, c'est lourd, mais on l'accepte, hein, en sachant pertinemment qu'on espère qu'avec votre aide, avec le fait que les gens, il va y avoir du bouche à l'oreille, ça va communiquer entre eux et puis on va voir des gens qui vont venir, des gens qui ont un savoir déjà, parce que c'est eux qui nous intéressent. Moi, j'ai vu tout à l'heure un monsieur qui était retraité dans la maçonnerie. Eh bien, on lui a dit, écoutez, il a dit oui, parce que bon, ben, peut-être qu'un jour, quelqu'un voudra poser 3 carreaux dans sa salle de bain ou je ne sais pas quoi, et puis eh ben, peut-être qu'il viendra le voir et lui dira, ben, si tu veux ça, il faut faire ça, ça, ça et c'est ça. Et c'est ce qu'on veut, voilà.
Et lors de cette journée d'inauguration, les habitants des alentours sont venus découvrir les nouveaux locaux.
Est-ce que je peux recueillir votre impression sur cette nouvelle outil tech?
Oui, bah c'est très intéressant. En plus, ça fait surtout pour des outils qui sont pas communs et qu'on n'aurait pas le luxe d'acheter pour des utilisations qui sont ponctuelles. Bah là, on bénéficie d'outils professionnels et bah, c'est bien pour le budget de tout le monde.
Et vous habitez où?
À Crassure-et-Souze.
Donc vous êtes intéressé pour rejoindre cette outil tech?
Ouais.
Est-ce que vous impliquerez aussi à tenir les permanences?
Bah oui, pourquoi pas. Après, il faut regarder un petit peu le fonctionnement de l'association et puis s'y adhérer, quoi.
Ça vous intéresse surtout pour les outils ou aussi créer du lien?
Bon, les deux. Hein. Moi, je faisais partie d'une association à Crassure-et-Souze, anciennement le club des jeunes. Et du coup, c'est toujours intéressant de créer du lien avec les différentes personnes du village.
Qu'est-ce que vous pensez de cet outil tech?
C'est une excellente initiative. Il y a beaucoup d'outils qu'on n'a pas forcément et pour lesquels on ne va pas investir parce qu'on s'en sert peu de fois dans l'année. Donc c'est une bonne solution de pouvoir les emprunter.
Plus particulièrement sous cet outil tech, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser éventuellement pour chez vous?
Bah, tout ce qu'on n'a pas déjà. Après, tout ce qui est petits outils, nous, il se trouve qu'on est déjà équipés. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce qui est qui sort un peu plus de l'ordinaire et qu'on utilise moins, voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir les emprunter du matériel tout neuf en plus et puis à moindre coût et sur place, pas besoin d'aller à Bourg.
Et parmi les outils, on peut trouver une broyeuse, une brouette, des tronçonneuses par exemple. Les bénévoles ont rédigé des notices d'utilisation pour chaque machine et c'est la mairie de Brèze-Vallon qui a acheté tout ce matériel neuf. Virginie Grignola-Bernard, maire de Brèze-Vallon.
Cet outil tech, c'est le prolongement d'un projet plus global qu'est l'écrin, qui est espace commun de rencontres et d'initiatives et qui a pour vocation d'accompagner les habitants à un certain nombre de défis où, tels que l'aménagement du territoire, la transition écologique, la transition numérique, et l'outil tech est un élément d'aide à cette transition.
Et pour aller à l'outil tech, c'est le samedi matin de 8h à 11h30 et le mercredi soir de 18h à 20h. Le temps que l'organisation se mette en place, seuls les habitants de Bresse-Vallon peuvent emprunter les outils. Pour cela, il faut se rendre sur place, au sous-sol du tiers-lieu L'Écrin à Étré. Et vous pouvez suivre le tiers-lieu L'Écrin sur leur page Facebook.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM. Belle journée sur Radio B.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.